Je vous invite à aller dans vos Bibles, dans le livre de Juges et le chapitre 2. Et on va continuer la deuxième partie de ce message qu'on a commencé la semaine dernière. Alors, la semaine prochaine, on fait une interruption, on va avoir le dimanche thématique. Et la semaine d'après, on va continuer dans les Juges, après qu'on ait maintenant couvert ces trois premiers chapitres qui nous montrent un peu toute la pensée de l'auteur et ces lunettes qu'on doit porter. Ces trois, des deux premiers chapitres qui nous permettent que si on les met, ces lunettes de l'auteur, nous aident à comprendre pourquoi les juges qui sont mentionnés après ça, ils nous racontent des histoires un peu chaotiques. C'est ce fil qu'il nous faut pour bien interpréter et apprécier chacune des histoires. Et on est devant le défi qu'on a relevé de la première génération au chapitre 1, et on a regardé le défi de transmettre maintenant à la prochaine génération tout un défi. Et pourquoi? Bien, on l'a regardé la semaine dernière, une partie, et on va continuer à cheminer dans la pensée que l'auteur veut nous faire cheminer dedans au chapitre 2. Et on continue à partir du verset 10. Je relis le verset 10 pour prendre où ce qu'on a laissé la semaine dernière. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva auprès d'elle, une autre génération, voilà le défi de chaque génération, qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, ou ce qui est littéralement mal aux yeux de l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent auprès d'autres dieux, avec un petit dé, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les Astartés. En fait, Baals et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent et les vendirent entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Vous savez, les ennemis d'alentour qui ont commencé à adorer leur Dieu. Ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Pourtant, où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux. Excusez-moi, partout où ils allèrent, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Je vais leur lire, effectivement. On ne s'est pas trompé. Partout où ils allèrent, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré, ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'il les délivre de la main de ceux qui les pillèrent. Mais ils n'écoutèrent point même leurs juges, car ils se prostituèrent aux autres dieux. C'est un gros mot, ça. Hein? Ils se prostituèrent à d'autres dieux. Ils se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père. Et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était le juge. L'Éternel était avec le juge. Et il les délivrait de la main de leur ennemi pendant toute la vie de ce juge. Car l'Éternel avaient pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, et ils persévérèrent dans la même conduite et la même endurcissement. Le même mot endurcissement que, hein, vous rappelez, le roi Pharaon d'Égypte qui endurcissait son cœur. Mais là, c'est Israël qui endurcit son cœur. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, c'est ta parole qu'on vient de lire et dans tout ce qui va être dit ce matin, le plus important a été dit parce qu'on vient de lire ta parole. C'est le clou de cette matinée, Seigneur. Chanter ta parole, lire ta parole, écouter ta parole. Que nos cœurs soient attentifs et disposés à t'entendre me parler ce matin. C'est tout ce que je te demande, Seigneur. S'il vous plaît, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Excusez-moi, j'étais un peu perdu dans mes feuilles. Alors, je vous rappelle notre plan. J'aime le mettre devant nous régulièrement. Alors, on est dans ce prologue. Et après qu'on ait fini ce prologue, cette introduction, s'ensuit cette chaîne de sept cycles de différents juges, de ce cycle qu'on va apprendre c'est quoi ce matin. Et donc, quatre grandes vedettes, on va dire, ou quatre gros joueurs importants qu'on va avoir des histoires plus complètes sont justement mentionnés ici et qui terminent avec un épilogue à la fin, une conclusion qui nous donne une illustration du chaos de cette époque-là. Et pourquoi cette série à travers ce chaos des juges? Bien, parce que nous-mêmes, nous vivons dans une époque de chaos moral, de chaos spirituel, de chaos générationnel, de chaos politique dans le monde, où le bien est appelé mal, le mal appelé bien, où ce qu'il y a des axes d'alliances qui se font dans le monde actuellement pour la guerre, pour l'argent, surtout pour l'argent. On est dans une époque chaotique. Et on a à apprendre de ce qui se passe dans ce livre et ce que Dieu, par l'auteur, veut nous apprendre ce matin. On a vu la semaine dernière, après la mort du chef, d'un chef, la nouvelle génération qui oublie ce que Dieu avait fait et qui grandit sans connaître Dieu. Et vous allez remarquer un peu un chevauchement ici entre les versets qu'on a lus, les versets de la fin de Josué. C'est comme s'il reprend, il y a comme des nouveaux éléments qui sont mentionnés ici, puis des éléments du chapitre 24 de Josué qui sont repris pour nous remettre en selle, en contexte des juges. Et là, on a lu ce matin que finalement, cette première génération-là, Israël, a abandonné l'Éternel. C'était pas un accident. Oups, on s'est pas rendu compte, on s'est éloigné de Dieu. Il y a eu un choix délibéré, et deux fois dans ces quelques versets, versets 11 et 13, on lit clairement, ils ont abandonné l'Éternel. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle génération? Mais évidemment, la connaissance de Dieu est difficile. Si la connaissance de Dieu est limitée, il est difficile de bien faire, n'est-ce pas? Ainsi, la première chose que l'auteur nous dit, c'est que le peuple a commencé à déplaire à Dieu. Littéralement, en hébreu, c'est écrit, « Fit le mal aux yeux de l'Éternel. » Ils firent le mal aux yeux de l'Éternel. Et ça va revenir au début de chacun des cycles, au chapitre 3, verset 7. Au chapitre 3, verset 12, au chapitre 4, verset 1, à le début de chaque cycle, ils vont revenir, ils ont fait ce qui déplaît aux yeux de l'Éternel, ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et voilà le centre de tout le problème, les yeux. Les yeux. On oublie que ce n'est pas ce que mes yeux voient, le jugement de mes yeux qui compte, mais c'est ce qui est important aux yeux de l'Éternel, parce qu'il est créateur, et c'est le jugement qui va être fait de l'être humain sera fait selon ses yeux, ses valeurs, pas les nôtres. Alors, ce qui est important, c'est comment on est vu par les yeux de l'Éternel, n'est-ce pas? Et tout au long, le mot « yeux » est utilisé à quelques reprises assez intéressantes dans le livre, 19 fois, et entre autres, l'Éternel, Israël fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et je viens de le mentionner, quelques références, mais il y en a encore 3 ou 4 autres à travers le livre. Ensuite, c'est intéressant, en comprenant cette phrase-là, on comprend un peu mieux l'histoire de Samson, ce drôle de juge, chaotique, immoral, qui fait des affaires un peu tout croche, tout seul, et on dit que justement le symptôme du problème de Samson, c'était ses yeux. « Papa, je veux cet homme-là, cette femme-là, elle plaît à mes yeux. » Il va dire deux fois. Je veux cette femme-là parce qu'elle plaît à mes... C'est une femme pourtant d'un autre pays, d'une autre culture, qui suivait un autre Dieu, supposément. Ça déplut à son père. Et pourtant, il va aller chercher cette femme parce qu'elle plaît mes yeux. Je ne sais pas si Dieu veut ou pas. Et c'est assez intéressant. Qu'est-ce qui va arriver aux yeux de Samson? C'est un peu spécial, hein? C'est un peu ironique. Il prend des décisions selon ses yeux, parce que c'est une époque où chacun faisait comme bon lui semblait. Et on lit justement ceci au verset chapitre 16, « Ils lui crevèrent les yeux. » Et d'un seul coup, on dit à la fin du chapitre, il dit, « D'un seul coup, lorsque tu vas me placer les mains de chaque côté de la colonne, je tirerai vengeance, Seigneur, des Philistins pour mes yeux. » Et Dieu va lui accorder, même dans ce chaos-là, pas parce qu'il mérite, par pure grâce, parce qu'il a choisi ce juge, pas parce qu'il le méritait, parce qu'il a choisi ce sauveur, et on va revenir sur cette expression-là, mais il a perdu ses yeux, ironiquement. On lit aussi une phrase vraiment importante qui revient à la fin du livre, au chapitre 21 et 17, « Dans ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. » On a chanté ça, là. Nous, on a un roi. Eux, ils ont abandonné le roi. Israël. C'était l'Éternel. Et éventuellement, ils vont vouloir un roi humain. Mais il n'y avait pas de roi, donc c'était un peu chaotique. Chacun faisait, et un homme, chacun faisant ou faisait ce qui était droit dans ses yeux. C'était ça le problème. Ce n'était pas une préoccupation de faire ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. C'est que chacun faisait comme bon lui semblait, selon ses valeurs, à ses yeux. Et c'est la racine du problème, les yeux, qui sont mentionnés 19 fois dans le livre et qui nous rappellent ce qui est important, ce n'est pas mes yeux, c'est comment ses yeux voient ma vie, voient ma société, voient ce qui est important. Et tout un, il y aurait d'autres références, mais vous comprenez l'idée du problème des yeux et du problème de ne pas avoir un roi qui établit les limites, qui gouverne ma vie. Et pour nous, nous sommes appelés à soumettre notre vie au roi Jésus, le roi des rois. C'est lui qui est supposé être notre roi. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? Rapidement, ils ont commencé à suivre les dieux Baal. Et c'est ces dieux Baal et tout leur rite qui a commencé à remplir le vide d'avoir abandonné Dieu. Le vide d'avoir oublié Dieu, le vide de ne pas avoir un Dieu, bien, il y a un autre Dieu qui a pris la place rapidement. Le moi est ce nouveau Dieu qui apportait toutes ses pratiques. Vous savez, Baal signifie maître. Et même, peut-être je peux vous choquer en vous disant que plusieurs fois dans l'Ancien Testament, on appelle un époux le maître. Ça veut dire que bibliquement, vous pourriez vous tourner vers votre mari et vous dire, « Bonjour, mon Baal, ce matin. » Techniquement, c'est biblique, cela, là. Pas sûr que c'est romantique. Je vois des femmes qui hésitent. Tout ce que veut dire Baal, c'est maître, seigneur. C'est utilisé pour un maître en général. Ça ne veut pas dire maître de l'univers nécessairement, ça dépend du contexte. Le mot Baal est utilisé d'une manière pour des maîtres en général aussi, pas juste un époux. La femme vertueuse va parler de son Baal. En passant, c'est le mot, son mari, c'est le mot Baal qui apparaît là. Peut-être que ça vous choque ce matin de savoir, mais c'est le mot en hébreu qui est là. Je ne mets pas plus de conclusion que ça, c'est tout simplement une observation. Et c'est un mot plus commun qu'on le pense, l'idée d'un Baal, c'est un maître. Et ce Dieu-là, évidemment, se voulait un maître de leur vie, tout simplement. Et ce maître-là, ce Baal, évidemment, bien, il avait une sœur, une épouse sœur, c'est un peu tordu là, hein, Astarté. Et c'était une statue de la déesse de la fécondité, de la guerre, que vénéraient les Phéniciens un peu au nord. Et ces deux divinités devaient assurer la fertilité du sol, des bêtes, des hommes, en réponse à des rites comme la prostitution sacrée dans les sanctuaires. L'homosexualité, l'automutilation pour atteindre l'attention de Dieu puis se faire du mal pour avoir son attention, allant jusqu'à des sacrifices même humains qui sont rapportés à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament. Il représente l'ensemble des idoles, dans le fond, cananéens, dont quelques-uns sont mentionnés comme étant l'Astarté, mais aussi Dagon, qui est mentionné le dieu au chapitre 16, avec lequel les Philistins adorent. Mais collectivement, il y a une décision ici, abandonner. Et ce n'est pas un accident, c'est une décision. Tout comme on va apprendre dans le livre de Ruth, qui s'est passé dans l'époque des juges. On lit littéralement dans le chapitre 1, verset 16, elle dit Ruth à sa belle-mère, elle ne veut pas être poussée à la laisser, à l'abandonner. Moi, je veux pas t'abandonner. Pousse-moi pas à t'abandonner. Je veux te suivre. C'est une décision. Après ça, on lit au chapitre 2, verset 11. Boaz admire Ruth. Il va dire, t'as abandonné ton père et ta mère, ton pays, pour venir dans un peuple inconnu. Wow! T'as pris une décision. C'était pas un accident, abandonner. Il va souligner aussi comment il demande à ses hommes d'abandonner un peu de brindilles, de blé pour qu'elles puissent ramasser. C'est une décision. Ce ne sont que des décisions. Et même Naomi va même dire comment Dieu le bénit de ne pas avoir abandonné sa bonté sur elle. Et ça, ça va faire du bien à l'âme, à la fin du chapitre 2 de Naomi, de voir que Dieu ne l'a pas abandonné de lui donner des bontés. Pas un accident. C'est une décision. Chaque génération a une décision. Il n'y a pas d'excuse, et ce n'est pas pour rien que Paul va dire, ils n'ont pas d'excuse. Romains chapitre 1. Ils sont sans excuse. C'est un choix délibéré, ce qu'on fait. Donc, la nouvelle génération qui oublie, Israël qui abandonne, et là on apprend rapidement que Israël est châtié comme Dieu l'avait promis. Et là, on lit des paroles dures qui peuvent nous troubler, que Dieu est en colère, que Dieu leur donne des conséquences, et on dit comme il avait dit, c'est-à-dire que le livre de la loi, vous rappellerez, dans le livre de Deutéronome, mais à d'autres endroits, particulièrement au chapitre 28, il va chanter les bénédictions et les malheurs. Voici ce qui va vous arriver, puis il devait faire ça à Sichem. Lorsqu'elle est rentrée en terre promise, ils sont allés le faire. Ils ont chanté sur une montagne les bénédictions de Dieu, si on obéit. Ils sont allés sur une autre montagne à Sichem, le mont Ebal puis Garazim. Ils sont toujours là aujourd'hui, là. Ils n'ont pas changé de place. Là. Puis ils sont à Sichem et de chaque côté, ils ont chanté les malédictions et les bénédictions. Si tu obéis, voici ce qui va arriver. Si tu désobéis, voici ce qui va arriver. Et qu'est-ce qu'on lit dans tout l'Ancien Testament? Quand on lit des conséquences, remarquez bien que chacun des mots, des conséquences qu'on retrouve, sont toujours liés à ce qui est écrit. Là, c'était écrit. Il a annoncé d'avance les conséquences. Ce n'est pas une surprise. D'où ça vient ces conséquences-là? Inventées, là, improvisées. Je n'étais pas au courant, Seigneur. Attends un petit peu. Juste ici, là. Je l'ai répété à part ça. C'était mot à mot, très, très clair. On est averti. Moi, je fais juste, dans le fond, respecter ton choix. Bénédiction pour obéir. Puis, il y a des jugements si tu désobéis. « Oh, mais le pauvre de moi! » C'est parce que tu étais au courant, tu as fait un choix, tu n'es pas une victime. C'est ça qu'il est en train de dire. J'ai fait comme j'avais dit. Sinon, je serais qui? J'ai dit quelque chose, je ne le fais pas. Je serais rendu bonasse que vous faites juste essuyer les pieds dessus, puis oh, il nous aime tellement que c'est ça que le monde nous présente, un Dieu bonasse qui aime, qui ne se fait pas respecter, qui n'est pas juste finalement, puis qui se fait piétiner dessus par un monde qui se fout de son Créateur. Mais notre Créateur, il dit, non, vous avez un choix, je vous laisse. Mais voici, j'ai plein de bénédictions pour vous, c'est ça que je voudrais, votre scénario numéro un. Mais dans le cas où ce que, et voici, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des malédictions, mais dans les malédictions, j'ai envoyé une solution, on va en parler. Je ne vous laisse pas maudit, là. J'ai trouvé une solution à la malédiction de votre mauvais choix en plus. Que Dieu est bon. Que Dieu est bon. Il donne des conséquences d'avance, puis il prévoit une solution quand on va être dans nos puits à vivre les conséquences de nos choix. On n'est pas toujours dans le puits des conséquences de nos choix. Ça dépend des moments. Et voici ce qu'il dit dans Josué chapitre 24, parce que pour apprécier ce chapitre, la deuxième moitié du chapitre 24 de Josué nous aide. Mais il va dire ceci, Josué, et ils avaient averti, écoutez bien, verset 19-20, il dit, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. » Bon, mais pourquoi tu nous demandes de servir l'Éternel? T'es drôle, toi. « Car c'est un Dieu saint, un Dieu jaloux, donc il ne veut pas partager sa royauté avec d'autres. Il ne veut pas partager d'être adoré, puis un peu de toi, un peu de l'autre. Non, c'est juste moi, là. Il n'y a pas d'autres créateurs. C'est un peu normal. Je ne suis pas trop exigeant, là. Il n'y a pas d'autres créateurs. Les autres, c'est juste des statuettes faites en toutes sortes de produits, puis qu'il faut vous les transporter, puis ils ne font pas grand-chose en réalité. Et il ne pardonnera pas vos transgressions. Hey, on est mal barré. Il leur a dit d'avance, vous n'y arriverez pas par vos propres forces. Il va permettre que vous soyez devant un constat que je ne peux pas obéir à Dieu tout seul. J'ai besoin de lui. C'est un Dieu parfait, mais je ne suis pas parfait. Donc, ils étaient avisés d'avance. Ce n'est pas une surprise. Et pourtant, ils sont devant une conséquence qui est lourde de sens pour leur génération et la génération suivante. Et remarquez au verset 15, les conséquences, on les voit aujourd'hui. Verset 15, dans votre Bible, si vous regardez, dernier deux mots. Une grande détresse, une grande angoisse, une grande anxiété. Parce qu'évidemment, tout à coup, quand on est frappé de nos mauvais choix, qu'est-ce qui arrive? Ben, oui, effectivement, ça peut devenir lourd. Une grande détresse, une grande anxiété, un grand découragement, le sentiment de la vie qui est pesante. N'est-ce pas ce qu'on voit autour de nous? N'est-ce pas ce qu'on est témoin autour de nous? Que pour beaucoup, on marche dans une société d'une grande abondance et pourtant les gens marchent comme ça, accablés, écrasés par le poids de la vie, le poids des responsabilités, du travail, des attentes, du stress, des délais, du travail qui ne va pas comme je veux, des relations qui ne sont pas faciles et que ça devient lourd. Effectivement, une grande détresse. Qu'est-ce que l'Éternel va faire avec ça? Bon, on apprend rapidement, après ce châtiment-là qui semble une damnation, qui n'a rien à faire, bien, tout à coup, Dieu use de grâce. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne un libérateur. Et le mot qui est là pour le libérateur, peut-être va vous choquer, mais c'est le mot sauver, un sauveur, littéralement. Mais parce que le mot sauveur, je ne veux pas juste dire un sauveur comme Jésus, sauvé de nos péchés. Je peux aller te sauver d'une tempête, puis t'embarquer dans mon auto, puis tu es en train de marcher, là, puis là, je t'ai sauvé de la tempête. Ça ne veut pas dire que j'ai sauvé ton âme. Parce que c'est synonyme, évidemment, de délivrance. Et donc, un libérateur, c'est souvent le mot utilisé, mais c'est littéralement un sauveur. Saint, un sauveur de notre âme. Quelqu'un qui va nous amener dans une liberté qui va nous permettre de se libérer de nos oppresseurs. Il leur donne un sauveur pour les sauver. Aussi simple que ça. Et ça, c'est une pure grâce de Dieu. Et on dit qu'il s'appelle des juges, des gens qui vont les juger, qui donc vont exercer un peu le travail que Moïse faisait. Et les gens venaient le voir, puis ils jugeaient des situations. Et on va apprendre qu'il y aura des juges, dans le temps des juges, et qui vont être dans différentes régions de la géographie d'Israël, de différentes tribus pour différentes époques. Et que ceux-ci, évidemment, quand ils vont être là, ils vont amener une libération, c'est-à-dire qu'ils vont être capables, eux autres, de tout à coup, ils vont les sortir de leurs oppresseurs, les libérer dans le combat, et ils vont avoir une période de paix que Dieu va donner à cette personne-là, à qui il donne, évidemment, la grâce de les conduire. Mais on parle quand même au verset 17, quand même, de leur prostitution. C'est fort, hein? Et s'il fallait qu'on utilise ce mot-là pour ce que ça veut dire aujourd'hui, on pourrait être très choqué. Parce que le mot veut dire ici, puis vous savez, le mot en hébreu, Zana, a simplement été traduit il y a 2200 ans par le mot qu'on connaît très bien dans le Nouveau Testament, pornéa, pornéo. L'ancien verbe, qui finit un peu différemment, mais le même verbe, a été traduit par les Juifs qui ont traduit l'Ancien Testament en grec, à l'époque de Ptolémée en Égypte, 200 ans avant Jésus-Christ. Et c'est le mot qui a été traduit pour pornéa. C'est-à-dire, et je vous lis simplement la définition, ce n'est pas mon interprétation, c'est littéralement, on pourrait dire, ils se prostituaient, ils commettaient de la fornication, c'est-à-dire des relations en dehors du mariage. Être prostitué ou jouer à la fille de joie, commettre l'adultère fait partie de tout ça. Être infidèle à Dieu dans une manière figurative dans notre relation avec Dieu, être infidèle, c'est de se prostituer avec d'autres dieux au lieu d'être fidèle à notre Dieu, une infidélité évidemment spirituelle, morale. Ou forcer même la prostitution. Ça vient d'une racine, de parler d'une extrême, d'être extrêmement nourri ou d'être folâtre. Et utilisé, évidemment, 90 fois dans l'Ancien Testament, et dont la majorité de ces références-là sont traduites par ce grec-là, le mot grec du Nouveau Testament, qu'on connaît comme étant pornéa, pornéo, le verbe, les mots. C'est ça que ça veut dire. Et dans tous les sens ici, autant envers Dieu que physiquement. C'est ce qui se passait. Et ça amène un grand dommage en Israël. Ils se prosternent. Et ils se sont hâtés de se détourner. Et là, Dieu, dans sa grâce, amène un juge, celui qui va juger, qui va sauver de sa main, qui va amener un changement et une période de liberté, on nous dit ici, de paix. Ensuite, après la mort du juge, qu'est-ce qui arrive? Super original. Devine ce qu'ils ont fait. Ils ont recommencé. Ça vous rappelle quelqu'un, ça? Tu penses comme moi, hein, Kathleen? Ça te rappelle moi. Ah, puis toi aussi. Ça nous rappelle nous. On recommence. C'est pas décourageant, ça, des fois. On dit, mais ça, je connais mieux. J'ai déjà passé par ce chemin-là. J'ai déjà goûté à cette médecine-là. Puis là, je me sentais mal. Après, c'est quoi? Puis là, après ça, je me sens. Puis là, j'ai demandé pardon à Dieu. Enfin, j'ai senti qu'il m'avait pardonné. Tu m'as-tu pardonné, Seigneur? Puis là, oui, je t'ai pardonné. Puis j'ai senti son pardon. Puis là, je recommence. Quel découragement, hein? Vous connaissez ce découragement-là, des fois, de recommencer la même bêtise. Il y a de l'encouragement ce matin. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas à mon pauvre de moi, victime de moi-même, que je recommence tout le temps. Il y a de l'espoir. Et il y a ce cycle qui recommence et qui souligne ici de manière assez claire qu'ils vont tomber, ils ont agi, ils sont éloignés encore du chemin, ils sont endurcis, et là, ça va recommencer. Ça va recommencer. Et en fait, ce qu'on est en train de voir, tout simplement, c'est ce que beaucoup de commentateurs vont mettre en image comme celle-ci. Okay? Ce qu'on appelle le cycle des juges. On peut le mettre en 4 points, en 5 points, c'est pas bien ben grave. L'idée générale, vous la comprenez, puis j'ai mis de RRR pour facile à apprendre, ou PPP. Vous avez le choix, ça, c'est pas le fun. Hein? Deux choix, qu'est-ce que vous avez en premier. Alors, mais peu importe, le contenu est là. Alors, il y a une période de paix, le peuple provoque Dieu, qu'est-ce qui arrive? Ben là, tout à coup, Dieu permet un oppresseur qui va les punir à droite. Et là, on descend en bas, là, le peuple, il crie, le plus capable, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, Seigneur, délivre-nous. Puis là, qu'est-ce que Dieu fait? Ben, il entend sa prière. Puis là, qu'est-ce qu'il fait? On dit qu'il a choisi un juge qui va envoyer un sauveur, pas parce qu'il mérite. On dit jamais qu'ils l'ont mérité. Il a juste entendu son cri parce que c'est un Père céleste, attentionné, qui est pas indifférent à nos cris. Puis c'est réconfortant de savoir qu'ils ont crié, puis Dieu entend chaque fois. Il répond peut-être pas tout de suite le oui qu'ils veulent entendre, mais il envoie un libérateur, il est sort, puis il espère qu'ils vont revenir à lui, mais il est pas dupe, Dieu il sait. Puis là, finalement, qu'est-ce qui arrive? Il y a un moment de paix, puis là, il provoque Dieu, puis il retombe dans les mêmes péchés. Ce cycle de rébellion, après ça, rétribution, donc ils ont la peine de leurs péchés. Il y a une repentance, il y a une restauration, il y a une période de paix qu'ils peuvent jouir de la bonne décision, puis boum, il recommence, rébellion, puis ça recommence. On voit 7 cycles de cette boucle qui recommence à travers chacun des juges, différents juges, différentes tribus, différents oppresseurs, mais la même histoire. La même histoire. Hein? Hommes, femmes, différentes époques, différentes sociétés, différentes églises locales, différentes villes, différents âges. Pourtant, la même histoire. On mange la même chose et on a besoin de la même espoir qui va souligner ici. Donc, c'est le cycle ici que vous allez voir. Je vais vous ramener à mener, lorsqu'on va regarder un des cycles, puis on va numérer vraiment les mêmes mots pour rappeler, c'est ça qui se passe. Et l'auteur veut qu'on porte attention à toutes les fois qu'on va voir chacune des histoires. Rappelez-vous ce cycle, ça recommence. Notez les mots qui reviennent continuellement en répétition. Vous nous montrez, on est là-dedans, là. On recommence, là. Mais là, un différent personnage, une différente histoire. Etc. Dans lequel il va y avoir des nouvelles leçons aussi qu'on peut tirer de tout cela. Mais là, on va lire la prochaine étape. L'Éternel éprouve son peuple. On va le lire ensemble, versets 20 jusqu'à la fin de notre section qu'on regarde aujourd'hui. 20. Alors, la colère de l'Éternel, parce qu'ils viennent de dire qu'ils se sont endurcis puis ont recommencé. La colère de l'Éternel s'enflamma contre elle et il dit, puisque cette nation a transgressé mon alliance, que j'avais prescrit à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai point devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il est mort. OK! Fait que c'est pas juste qu'ils n'ont pas été capables de les chasser par une mauvaise décision. Dieu aussi permet qu'ils n'ont pas tout chassé. C'était pas une erreur que Josué n'a pas tout conquéri, qu'il en a laissé quelques-uns. Il y avait du développement pour voir les réponses là-dessus. Il y a comme une nouvelle étape ici d'information qu'on a besoin de comprendre. Il dit, c'est ainsi que je mettrai par elle, par ces pays autour, ces peuples, à l'épreuve pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel. Ah, je veux voir qu'est-ce qu'ils vont décider. Comme leur père, y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qui n'avaient pas livré entre les mains de Josué. Et il ne se hâta point de les chasser. Donc, ce n'est pas juste eux, c'est Dieu qui activement fait par exprès. On continue pour comprendre. Voici les nations que l'Éternel laissa ou ne permit pas de prendre possession. OK? Pour éprouver par elle Israël. Soulignez-le encore une fois ici. Là. Pour éprouver par elle Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Ah, là, on parle de la nouvelle génération. Et là, j'ai permis ça pour la nouvelle génération. Il y en a besoin de tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils ont besoin de guerre. On continue. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent. Le mot ici, là, c'est vraiment apprennent. C'est qu'ils soient enseignés. Donc, il est en train de dire que ça, là, c'est pédagogique. Dieu est en train de leur donner des leçons de vie dans le combat. Là, ça nous dérange un peu. On continue. Donc, il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les cinq princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens qui sont plus au nord, les Aviens qui habitent la montagne du Liban, puis les montagnes de Bel-Hamon, donc le mont Hermon, OK? Bel-Hamon, juste tout près à côté, jusqu'à l'entrée de Hamat, qui est plus en Syrie. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, troisième fois, afin que l'Éternel sache, qu'ils puissent connaître s'ils vont obéir au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et là, il y a un deuxième groupe qui est mentionné. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Éthiens, des Amoréens, des Périsiens, des Aviens, des Jubésiens, des gens qui étaient de Jérusalem. Donc, tous des noms qu'on retrouve dans le chapitre précédent, les mêmes groupes sont réitérés ici. Et là, on termine au verset 6. Ils prirent leurs filles pour femmes. Ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles. Et qu'est-ce qui arrive naturellement après ça? Et ils servirent leur Dieu. C'est juste la suite naturelle d'une telle histoire. Notez bien ici, pour commencer, trois fois le mot « l'Éternel les mit à l'épreuve ». Vous connaissez super bien ce mot-là. Parce que c'est une histoire qu'on connaît bien, être mis à l'épreuve. Parce que la première fois que ce mot, ce verbe est utilisé dans l'Ancien Testament, vous connaissez l'histoire. Genèse, chapitre 22. Il y a un papa qui vient d'avoir un beau fils unique et on dit que Dieu l'a mis à l'épreuve, Abraham. Tu vas aller sacrifier ton fils, ton unique. Est-ce qu'il voulait du mal, Abraham? Mais là, c'est un peu tordu. Tu me sacrifies ton fils. Tu vas le tuer sur un autel puis tu vas le brûler. Voulais-tu revenir sur votre décision? Est-ce que Dieu voulait du mal par cette épreuve? Là, il y a de l'hésitation. Hein? Pas évident. Il ne voulait pas qu'il meure, son fils. On nous dit même qu'Abraham, l'auteur du livre aux Hébreux, nous dit qu'il croyait même qu'il allait le ressusciter des morts, qu'il allait être capable de le ressusciter. Lui, il obéissait et il a passé à travers l'épreuve par la grâce de Dieu. Il a été près de Dieu, l'a vu, il l'a arrêté au dernier moment. Puis, tout à coup, il y avait une petite brebis que Dieu avait placée dans un buisson pas loin, poignée par les cornes, qu'il a pu offrir. Et là, Abraham, Isaac ont pu vivre ce moment-là particulier, d'être mis à l'épreuve dans leur foi. Abraham, comme père, avant tout. Donc, c'était pour son bien. Il dit, j'ai mis à l'épreuve, j'ai laissé là pour vous mettre à l'épreuve. Et je vous donne ici les raisons pour lesquelles il est mis à l'épreuve. Et l'auteur nous donne ici, et complémentaire avec le Pentateuch, quatre raisons. Premièrement, il dit, chaque génération doit expérimenter la guerre. Attends, tu veux, nous autres, on s'arrange pour gagner une guerre pour que nos enfants puissent grandir dans une période de paix, n'est-ce pas? Amen? C'est ce qu'on espère. Puis qu'on a pris des leçons. Là, Dieu dit, non, c'est bon qu'ils vivent la guerre. Ils ont besoin de connaître ça. C'est bon pour leur foi. Ah, OK. Moi, je fais tout pour éviter la guerre pour mes enfants. J'évite qu'il y ait de la misère. Hein? On fait tout pour les protéger de la misère. Puis lui, il a dit, non, non, c'est bon pour eux autres de vivre. Toi, ça t'a fait du bien de vivre la guerre, de voir que j'étais avec toi, le travail d'équipe, de se confier en l'Éternel, de voir des combats que tu n'aurais pas dû mériter, mais que Dieu est intervenu. Puis tout ça, c'était fort pour ta foi, t'as expérimenté Dieu. Ton enfant a besoin de ça aussi, de passer par des moments difficiles. Ouais, attends un peu, là. C'est pas dans notre philosophie, on essaie d'éviter les problèmes, nous autres. Oui, Dieu est un père, puis il sait que c'est bon pour eux autres. Faire la guerre contre les Cananéens semble être pédagogique pour leur enseigner, pour transmettre la foi. Comme parents, nous, nous désirons protéger nos enfants et leur éviter le pire. Cependant, il semble que Dieu utilise les guerres pour leur enseigner quelque chose. Ouf! Marchez là-dessus un instant. C'est pas mal différent de nous. Alors évidemment, c'est pas de faire par exprès, là. Son idée, c'est pas ça. Mais il sait comment, dans un monde pécheur, c'est salutaire pour nous. Et que dans beaucoup de confort, on se complaît. On s'installe. On devient distrait. Et tout à coup, nos yeux s'en vont dans cette frivolité. Trop de temps pour nous, trop de facilité vers des dieux étrangers, comme Samson. Elle me plaît. Il est beau. À mes yeux, c'est super. Et tout à coup, on prend un mauvais chemin. Pourquoi Dieu permet les nations cananéennes de rester là? Parce qu'il les aime. Et il sait que c'est un outil pédagogique qui est bon pour former la prochaine génération. Le problème, c'est qu'ils vont, la prochaine génération, ils n'iront pas combattre. Ils vont les laisser là, tout simplement. Mais Dieu voulait du bien par le fait de ne pas tout enlever facilement, tout cuit dans le bec pour la prochaine génération. J'ai entendu une phrase, il y a un certain nombre d'années, qui a laissé une grande impression sur mon cœur. Une femme qui avait vécu un abus. Puis, à la suite de cet abus-là, puis de tous les troubles qu'elle avait vécus, c'est pas moi qui le dis, c'est elle. Elle dit, je remercie Dieu pour mon épreuve parce que je me suis rapprochée de lui dans ce que j'ai vécu. Ouf! Vous n'avez pas l'idée que moi qui étais présent devant elle, là, d'entendre dire ça, là, ça a laissé une impression qui fait... vibrer mon cœur qui me fait quelque chose d'incroyable d'entendre ça. Moi, j'aurais pas été capable de dire ça. N'est-ce pas ce que chacun des, comme nous, comme parents, comme société, on voudrait protéger tout le monde de telles choses? Mais elle était capable de dire, ça a été bon pour moi parce que je me suis rapproché de Dieu et j'ai donné ma vie. Mais nous, c'est correct, on veut le bien de nos enfants. Mais Dieu ne veut pas qu'on se tienne en travers des épreuves qu'il permet dans la vie de nos enfants. Ils ne veulent pas qu'on vienne de se mêler à ce qui n'est pas de nos affaires, puis de court-circuiter ce que nos enfants ont besoin de vivre, que Dieu permet dans leur vie, qu'on n'a pas de contrôle dessus. Vous me suivez? Et la ligne est mince, des fois, entre essayer de porter les conséquences que quelqu'un vit et de juste l'écouter, l'encourager, le supporter. Mais pas le prendre sur mes épaules ou de tenter de court-circuiter et diminuer le problème que l'autre vit. La ligne est très, 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 très mince. Pas facile. Et on la traverse facilement, d'un bord comme de l'autre. Ensuite, il dit, chaque génération a l'occasion aussi de rester dans le chemin tracé par Dieu. Le chemin de l'obéissance, ou de continuer. Chaque génération doit être confrontée à son choix à elle. Il ne peut pas prendre le choix de papa-maman. Il doit, en cours de route, dans sa jeune vie adulte, faire un choix, assumer ce choix-là, le calculer et de vivre avec les conséquences de ce choix-là. Et Dieu veut responsabiliser chaque génération qui est ici. Il ne pourra pas juste suivre les traces de l'autre automatiquement. Ce n'est pas comme ça, la foi et le miracle de la conversion d'un âme. Troisièmement, quelque chose de pas bête, Deutéronome, chapitre 7, nous avait averti d'avance aussi qu'il souligne le fait que d'empêcher aussi le pays de se transformer en désert avant que la population d'Israël soit suffisamment augmentée pour occuper tout le pays. Fait que si je vous donne tout de suite avec Josué, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de monde pour prendre tout ça, puis ça va être désertique, il va y avoir des animaux sauvages, ça va être un problème de ne pas posséder un terrain que tu as, qui est trop grand pour toi. Fait que c'est pour ça aussi que vous allez le prendre progressivement, et il explique tout ça dans Deutéronome. Es-tu, es-tu intelligent? Non, mais il doit être créateur, lui. Il doit savoir ce qu'il fait, là, je me dis, hein? Il a pensé à tous ces détails-là. Attentionné pour chaque génération. Puis il y a une autre chose. Il va falloir les enlever, ces nations-là, parce que sinon, ça va nous amener un problème. Les mariages mixtes. Puis là, tout à coup, que des Juifs marient des Cananéens, puis que là, on vient tout diluer et que finalement, il y ait un peuple juif qui a été assimilé à un autre peuple qui est devenu de n'importe quoi. Alors que Dieu a dit qu'il allait passer à travers ce peuple-là pour amener un roi Messie, le sauveur du monde, la solution à notre problème de toujours recommencer, puis d'être perdu, puis qu'on ne peut pas satisfaire ce Dieu-là, qui est impossible par sa sainteté d'être satisfait. Ça passait par une nation qui resterait cette nation-là, duquel viendrait un Messie. Et là, il énonce au verset 5-6 à la toute fin ce danger des mariages mixtes, c'est-à-dire d'une personne qui professe la foi dans le Dieu unique, qui croit en Jésus-Christ, qui croit dans le Messie à venir ou le Messie qui est venu dans le passé, et quelqu'un d'autre qui sert à un autre Dieu, un autre Baal, un autre maître, un autre roi dans ma vie. Et la Bible nous avertit sur le fait que cohabite mal un couple qui ont chacun un maître différent. Il y a un niveau d'intimité qui veut pas, va être heurté. Il y a un niveau d'intimité qui ne peut pas être atteint. Et ça mène tout un défi aussi dans ce que j'appelle l'élevage des enfants. À chacun son élevage. Mais vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Quel défi! Puis Dieu savait le danger qui les guettait. Et qu'ils ont besoin de les combattre à chaque génération pour aussi rejeter cette tentation de se marier avec ce peuple à côté qui a un autre Dieu. Dans chaque génération, il y a cette décision qui doit être prise. Que chaque décision, chaque génération aura comme conséquence. Je vous lis un texte, il y en aurait plein, que je vais en lire un en exemple. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, hein, ça revient encore ce verbe-là, prendre possession, et qu'il aura chassé devant toi beaucoup de nations, les Hittites, alors il y en a 7 ici, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi en termes stratégiques de force humaine. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés, donc c'est lui qui va les donner entre livrés que tu les auras battus, tu les voueras à la destruction. C'est pas une interprétation, là. C'est clair. Tu ne concluras pas d'alliance avec elles et tu ne leur feras pas grâce. Donc, il y a des endroits où Dieu ne veut pas qu'on fasse grâce. C'est spécial, hein? Tu ne contractera pas de mariage avec ces peuples. Et tu ne donneras pas tes filles en mariage à leurs filles et tu ne prendras pas leurs filles comme femmes pour tes fils. Et il répétait ici quelque chose qui s'est passé 40 ans auparavant, en fait 39 ans auparavant, dans Exode chapitre 34. Et vous pouvez lire ces versets-là qui sont très instructifs dans notre sujet. Ça reprend tout simplement. Et là ici, ça c'est ce qui est élu avant de ramasser en terre promise. Puis qu'est-ce que Josué fait? Des années plus tard, il va réitérer essentiellement dans ces versets-là, je ne vous les lis pas, les mêmes vérités. Il va le répéter ponctuellement à chaque génération, cet avertissement-là. Vous dites, hey, faites pas ça. Faites pas ça. Et notre génération a besoin d'être avertie. Je vous ai dit que j'amènerais cette prédication de Sam Albury sur la voie de l'Évangile dans une culture en mutation et les 4 mutations qu'il dénote dans notre société. On a vu le changement moral la semaine dernière. La valeur morale a changé. Le bien et le mal, ça a fluctué et on n'a plus les mêmes valeurs morales pour regarder qu'est-ce qui est bien et ce qui est mal. On a d'autres sets de questions qu'on a regardées. Il y a une autre chose qui a changé aussi d'important. c'est-à-dire notre définition de la sexualité, qui est devenue plus quelque chose de récréatif, et du mariage. La définition du mariage, de la sexualité, de son utilité, a changé dans notre société. Ce n'est plus la même qu'auparavant. Ce n'est pas la même que ce que la Bible parle. La sexualité libre est considérée comme essentielle pour notre développement humain et l'épanouissement, sans quoi nous sommes brimés. Et notre identité passe par notre sexuel. Je suis hétéro, je suis homo, je suis pansexuel, je suis transsexuel. Et on utilise ces termes-là pour nous définir, comme si j'étais juste ça, moi. Si c'est tout ce que vous avez à dire sur moi, que je suis un hétérosexuel, c'est ça mon identité, c'est pauvre comme identité. C'est juste ça que je suis. C'est comme si toute la question de la sexualité humaine devient ma définition d'être. Mais ce n'est pas du tout ce qui me définit seulement. C'est une parmi tant d'autres choses qui me définit ma personne. Ce n'est pas la définition. Donc, si on t'exprime, on te dit pas que c'est ce qui te définit, ou si on te dit que c'est ce qui te définit, puis là, on te dit que ce qui te définit, ou tes tendances, ou tes désirs, sont pas bien, qu'est-ce qu'on fait, en fait? On te brime. On t'empêche de t'épanouir. On t'empêche d'être ce que tu dois être pour être heureux, aller au bout de tes rêves, de t'épanouir, parce que ta sexualité te définit. Qui serions-nous pour oser juger la sexualité d'une personne et pour qui on peut se prendre? Et là, tout à coup, puisque la sexualité est utilitaire et récréatif, ben, c'est pas ça qui définit le mariage de manière absolue, du tout. Tout ça a changé. Je vais juste me ramener à mes notes. Tout à coup, la vie de couple devient simplement un contrat romantique flexible. Notons-le. OK? C'est très important. Et on doit être satisfait sexuellement. Sinon, il y a de la merde, là, on enlève ça. Là. Hey, je ne suis pas épanoui, je ne suis pas satisfait. Je n'ai pas besoin de ça. Et c'est ce qu'on va dire, si tu n'es pas épanoui, arrête-moi ça, là, cette relation-là, même s'il y a des enfants, parce qu'il faut que tu sois épanoui. C'est ça qui est important, que tu aies une satisfaction sexuelle. Les vœux de mariage, même parmi les chrétiens parfois, écrits par les couples, sont tout à coup un peu moins engageants dans l'alliance même, un peu plus superficiels. Dans les bons, les mauvais moments, quand je serai satisfait sexuellement et quand je ne le serai pas, on devrait l'ajouter. Ça pourrait être pertinent. C'est pas romantique, c'est vrai. Dis-moi, c'est pas romantique. T'as raison. Ta femme t'a bien éduqué, Fabien. Je peux l'agacer, c'est un bon ami. Alors que notre engagement matrimonial est supposé de pointer vers Christ. La Bible est très claire, là. Notre engagement matrimonial pointe vers l'épouse que nous sommes, à Christ, vers l'unité et dont l'élément déterminant n'est pas la satisfaction sexuelle, même si la sexualité fait partie de cette unité de mariage et qui n'est pas négligée non plus. Soyons honnêtes, ce n'est pas un succès autour de nous, évidemment, le mariage. Bien au contraire, les couples, les familles se trouvent dans une plus grande insatisfaction de couple et que même le fait de briser les couples continuellement pour entrer en quête de satisfaction, ce n'est pas une histoire de succès pour la prochaine génération. Une génération plus brisée, qui a de la misère à comprendre la différence entre un homme et une femme, le rôle de chacun. Il y a une confusion de genre, pas pour rien. Confusion sur c'est quoi un engagement envers un autre, de tenir sa promesse bon temps, mauvais temps. Une génération brisée émotionnellement, avec des problèmes d'attachement, parce qu'on a vu des êtres humains ne pas tenir leurs promesses, pas fiables comme adultes, qui sont supposés m'amener de la sécurité, de donner un modèle de vie. Puis là, je ne sais pas où me garocher. Parce que tout ce qui est stabilité de la famille est brisé. Notre histoire puis nos valeurs qui ont changé n'apportent pas un meilleur bien-être en société en termes de relations conjugales et de bien-être de notre société. Au contraire, ça crée beaucoup d'anxiété. L'auteur qui est là a dit ceci dans son livre que je lisais justement. Je l'ai prêté cette semaine à quelqu'un et il y en a trois qu'on voit circuler, ceux qui sont intéressés. Mais il a dit ceci, Sam Albury, pasteur en Angleterre. Il dit, en parlant de l'unité, en parlant de cette unité liée au physique, psychologique, émotionnel et spirituel causé par la sexualité dans le couple. Voici ce qu'il dit et que j'ai trouvé tellement simple et tellement vrai. Cela fonctionne très bien. D'ailleurs, c'est l'effet unificateur de la relation sexuelle qui rend la rupture si profondément douloureuse avec une personne. Nous n'avons pas été conçus pour cela. Plus nous construisons des relations brisées, plus nous aurons des difficultés à vivre une unité profonde et respectueuse. Intéressant. C'est son observation comme homme, pasteur, qui vit célibataire parce qu'il a des luttes avec le sexe, le même sexe. Il en parle ouvertement. Il décide de vivre dans l'obéissance de Dieu et de vivre comme célibataire dans son cas pour le présent, en tout cas. Et il partage ses observations avec toutes les gens avec qui il fraternise, beaucoup se confient à lui, et il constate cela. Puis il ajoute ceci, une belle illustration. Il dit, la suite, la sexualité fonctionne un peu comme un post-it. Vous avez des post-it à la maison? Hein, des petits post-it, là, des petits collants qu'on met de différentes couleurs pour ne pas oublier des choses. La première fois que vous l'utilisez, elle adhère bien. Mais quand on la réapplique trop souvent, elle perd son adhésion. Nous ne sommes pas tout simplement conçus pour avoir des multiples partenaires sexuellement. La relation sexuelle devient finalement moins relationnelle, plus fonctionnelle ou récréative et moins satisfaisante. Les rencontres sexuelles occasionnelles sont décrites comme amusantes, sans danger pour la plupart, évidemment, des sites Internet. Mais les conséquences dans la vie réelle sont beaucoup plus graves. Des vies émotionnelles brisées, anéantissement. Nous ne devons pas être surpris. Le sexe est conçu pour unir deux personnes d'une façon irréversible. C'est la fonction dans laquelle Dieu l'a construit pour l'unité du mariage. C'est pas pour rien que c'est pas évident. Les valeurs de notre monde appliquées dans la vie de tous les jours et de voir finalement une grande détresse. C'est pas surprenant. Et j'ai trouvé cette déclaration tellement juste et vraie, parce qu'on nous vend une nouvelle sexualité, les amis, qui n'est pas la vraie sexualité, qui n'est pas notre définition, et qui ne vient surtout pas d'une chose, du Créateur. Le Créateur a dessiné l'être humain, homme et femme. Le Créateur nous a dessiné dans tous les détails, et quand tu ouvres les veines, puis tu regardes les chromosomes, peu importe comment tu t'habilles, ça ne change absolument rien à la biologie, la science de qui tu es né, comment tu es né. Ça ne change absolument rien. Ça, c'est scientifique. On nous vend une nouvelle moralité, mais parce qu'elle fait fi du Créateur, qui, lui, a créé la sexualité et qui a osé définir ce qui est bon pour l'être humain, comment il va s'épanouir, puis qu'est-ce qui va lui nuire. Puis que des générations en arrière, on a pu voir. Puis rien de nouveau aujourd'hui sous le soleil. C'est pas pour rien qu'il y a de l'insatisfaction autour de nous, que ça n'a pas donné le bonheur. Même bien le contraire, et je ne m'aventurerai pas trop à ce niveau-là, parce qu'il y aurait des statistiques, des choses à développer, puis ce n'est pas mon but ce matin. J'aimerais atterrir avec vous ce matin. Quelques réflexions, trois en terminant tout simplement. Celui-ci qui revient sur la semaine dernière, sur juste souligner l'importance que les juges mettent sur la transmission de la génération prochaine, la foi. Quel défi, qu'on puisse être juste sur nos genoux à prier pour ça. Que ce soit sur nos cœurs, pour vos petits-enfants, pour vos enfants, pour vos neveux, vos nièces, les enfants dans le voisinage, pour cette nouvelle génération. Christ nous donne, vous savez, la liberté de faire ce qui est bon malgré le chaos autour de nous. J'aimerais le souligner, que malgré autour de nous, que ça peut être chaotique, on peut faire le bien. On peut se démarquer et faire un choix différent. On n'est pas obligé. Il y a un auteur qui soulignait comment il avait visité il y a un certain nombre d'années à l'aéroport Léonard de Vinci à Rome, il y a bien des années. Et il mentionnait comment il était embarqué dans un grand tourniquet. Peut-être vous avez vu ces vidéos aussi en Inde. C'est grand. Et les gens qui embarquent d'une manière là, à vous faire mourir. Là. Regardez le monde qui tourne en rond là-dedans. Puis on dirait un fouillis incroyable. Et évidemment, ce qu'on peut remarquer de positif dans une telle affaire, c'est qu'il n'y a personne finalement qui enfreint la loi. Parce qu'il n'y en a pas de loi. C'est survie. Il y a comme par defecto une manière de faire. C'est le chaos. Et même s'il y avait une loi de Dieu en Israël, c'était le chaos comme ça. Même si la parole de Dieu est écrite aujourd'hui, il y a un chaos comme ça autour de nous. Même s'il y a un repère, parce qu'on l'a rejeté. Et encore aujourd'hui, beaucoup de gens, même des croyants, ne font aucun cas de la révélation claire de Dieu dans sa parole. Ils croient qu'ils sont libres de former leurs propres opinions sur Dieu et sur qui ils s'attendent, ce qu'ils s'attendent de notre part. Grandement influencés par la société sans Dieu, ils vivent au centre de leur propre vie, marchent selon leur propre voie et leurs valeurs. Cela crée une confusion morale et spirituelle. Nous devons prendre au sérieux la parole de Dieu, les amis. Si nous voulons montrer au monde autour de nous que Christ nous donne la liberté d'action, qu'on n'est pas obligé de suivre ce chaos. La liberté ne nous donne pas le droit de faire ce qui nous plaît, mais de faire ce qui plaît à Dieu. Et autour de nous, on voit de l'apitoiement, de la victimisation. « Oh, je fais juste le mal de toute façon, puis je recommence tout le temps. Qu'est-ce que ça donne? » Et là, on tombe dans l'apitoiement et la victimisation. De toute façon, Dieu n'est jamais fier de mes décisions. Je suis toujours un échec. Qu'est-ce que ça donne de me donner tant de mal, de vouloir revenir, de recommencer? Et de regarder finalement le verre devant moi, vide, parce que c'est le verre de mes échecs. Et il n'y a pas grand bon coup dans lequel me réconforter et m'encourager. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Les juges ne soulignent pas seulement l'histoire des échecs passés du peuple de Dieu, mais avant tout la fidélité de Dieu. Ce qu'il faut faire, c'est regarder l'autre verre, que lui, il est plein. Le verre de l'infidélité de l'homme, il est vide. En fait, il est plein, mais négativement, mais il est vide, il n'est pas encourageant. Mais le verre de la fidélité de Dieu, à chaque fois, quand on a regardé le cycle qu'ils ont crié, il y avait un Dieu qui a entendu. Des fois, il disait, non, pas tout de suite, ça s'en vient, mais ce n'est pas encore le temps. Fais-moi confiance. Des fois, ça prenait 40 ans. T'es long, 40 ans. On est d'accord? Qui veut attendre 40 ans pour sa prière? Levez la main. Mais Dieu entend. Ne nous trompons pas, Dieu entend. Et il est fidèle. Et tout le long du livre, la fidélité de Dieu est célébrée. Et c'est pour ça que j'aimerais vous lire juste un psaume en terminant avec lequel on va prier. Le psaume 106. Regardez le psaume 106, s'il vous plaît, avec moi. On va juste le lire, je ne le commenterai pas. On va les lire pour prier, puis j'ai invité l'équipe de louanges à s'approcher. Le psaume 106, qui fait des louanges à Dieu en rétrospective, justement, du temps des juges et des échecs humains. Et regardez bien. Je vous lis 7-8 versets, au verset 39. « Ils se souillèrent par leurs œuvres, ils se prostituèrent par leurs actions. La colère de Dieu s'enflamma contre son peuple et il prit en horreur son héritage. Il était dégoûté. Il les livra entre les mains des nations, ceux qui haïssaient et dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent. Ils furent humiliés sous la puissance, sous leur puissance. Plusieurs fois, il les délivra. Il vit leur détresse, au verset 44, lorsqu'ils attendirent leurs supplications. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Il n'a pas oublié qu'il avait fait des promesses de jugement puis des promesses de bénédiction à celui qui se repent. Au verset 46, « Il eut pitié selon sa grande bonté et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui, ceux qui les retenaient captifs. » Et là vient cette prière. « Sauve-nous, Éternel. » Vous pouvez faire cette prière-là ce matin. Dans votre situation où est-ce que vous recommencez, vous êtes découragé, il est en train de parler tout seul, on peut s'identifier à ce. Il dit, sauve-nous, Éternel, notre Dieu. Rassemble-nous au milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire, notre fierté à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple de Dieu dise Amen. Loué soit l'Éternel. Seigneur, on se place devant toi ce matin, pécheur, en besoin comme Israël de pardon, de restauration, parce qu'on recommence, on est découragé, puis on tend, Seigneur, à tomber dans cette victimisation, le pauvre de moi, pour se laisser là, en échec, puis se dire, ça donne rien de faire un effort encore une fois. Mais Seigneur, tu nous enseignes dans ce livre. Il y a une pédagogie dans ce livre que tu veux parler à nos cœurs ce matin. Qu'on ne reste pas là. Qu'on ne s'apitoie pas sur soi-même. Parce qu'on n'avancera jamais comme ça. Et que tu as déjà prévu des moyens pour nous sortir de là. Tu as prévu la force en Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, le miracle incroyable du pardon. Tu as prévu par Jésus-Christ, par son esprit, la force de pouvoir prendre la décision de dire non au péché. Et je ne suis pas obligé de pécher, Seigneur. Je peux résister par la grâce de Dieu. Je peux dire non avec ton aide, Seigneur. Par ton esprit, je ne suis pas obligé de rester là, le nez dans la gravelle, traîné par l'ennemi, par ma chair, par la culpabilité. Tu veux me relever, Seigneur. Toi, tu tends la main ce matin. Tu m'invites à me relever et dire, pardon, Seigneur. J'ai besoin de toi. Voudrais-tu m'aider encore à me relever et à marcher à ta suite? Je veux le faire, Seigneur, ce matin, dans le nom de ton Fils Jésus.